Ladies and gentlemen, you're listening CBN on Radio Bottas.
Nos flashs, nos scoops, c'est 7 bonnes nouvelles.
L'émission qui vous met la patatasse.
Bonne nouvelle.
Bonne nouvelle.
C'est quand ça fait boum dans mon cœur.
Une bonne nouvelle, ça a réjoui.
Oh, une bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle.
Bonjour, bonjour, chers auditeurs. Donc, bienvenue dans votre émission 7 Bonnes Nouvelles. Alors, en ce début d'année, donc, bonjour Roland.
Bonjour Philippe.
Voilà. Bonjour Christophe.
Bonjour à tous les deux.
Voilà, tous les deux, oui, effectivement, parce que Alain...
Et aux auditrices aussi, tu
et aux auditeurs, oui. Les auditeurs et auditrices, oui,
et
c'est
happy,
vrai.
Happy New Year à tous.
Voilà, il y a encore temps, hein, je crois, de souhaiter une bonne année à tous et plein de bonnes nouvelles, surtout, qui se réalisent, surtout, voilà. Donc Alain est absent aujourd'hui, et voilà, il avait un empêchement. Donc, mais vous verrez, il est quand même un peu présent, on vous en reparlera après.
Alain est toujours là, voilà. Il est là, son ombre est là.
Voilà. Alors, notre première rubrique bien de chez nous sera un peu plus courte que d'habitude puisque il y a eu un petit souci d'organisation avec les invités, mais c'est pas grave, vous les retrouverez le mois suivant. Moi, j'en profite quand même dans le cadre de cette rubrique pour faire un petit point sur le collectif, vous savez, dont on a parlé le mois dernier. Flora qu'échange là. Alors les gens ont continué à travailler, à réfléchir, à écrire, et donc il est prévu, donc regardez bien votre journal parce qu'il est prévu qu'on diffuse de l'information, donc à base d'un récit qui n'est pas une fiction, mais qui pourrait ressembler à une fiction. Donc de la fiction, ce serait ce que va devenir Florac en 2026. Donc je vous en dis pas plus, vous verrez. Moi, ça me plaît en tout cas.
Il y a du Alain là-dessous.
C'est vrai que c'est Alain qui a écrit le récit, mais il est étayé par tout un tas d'arguments et d'exemples qui existent ailleurs. Donc ce n'est pas que de la fiction, c'est une fiction possible, on va dire. Donc regardez bien vos journaux, écoutez Bartholomew. Vous en saurez plus. Il y a des réunions publiques qui s'annoncent. Donc avant ces réunions publiques, le collectif La Florac Échange va...
Pour que les prochains élus aient matière à phosphorer.
Exactement. Voilà. Et puis, que surtout, ce qui est important, c'est que tout le monde donne son avis là-dessus. Hein, puisque, évidemment, quand on annonce un projet, il y a toujours un peu des partis pris. Donc, il faut échanger là-dessus. Et puis, voilà, on verra bien ce que ça donne.
Bien, et bien maintenant nous allons passer à notre rubrique bien de chez nous, n'est-ce pas? Et tu vas commencer Philippe, qu'est-ce que tu as à nous annoncer?
Alors en fait, comme on le disait à l'instant, c'est pas moi qui vais commencer, c'est Alain, qui nous a quand même transmis des bonnes nouvelles qu'il voulait absolument figurer dans l'émission ce mois-ci. Alors, sa première bonne nouvelle, c'est donc Jeremy Rifkin, un Américain donc, qui vient d'écrire un livre qui est un best-seller aux USA. Mmh. Ça s'appelle le Green New Deal. Parce que l'année 2019, donc il décrit tout ça dans son bouquin, hein, évidemment. L'année 19, c'est aux USA une année un peu bascule entre le prix du pétrole et le prix des énergies renouvelables, donc solaire, éolien. En fait, on s'aperçoit que les énergies renouvelables sont maintenant moins chères que le pétrole aux USA et j'imagine dans d'autres pays. Voilà.
Ça peut changer les choses.
Évidemment. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? Alors lui, il annonce évidemment l'effondrement de la civilisation des énergies fossiles, mais il décrit aussi ce qui se passe. On sait que l'économie est régie quand même par beaucoup de fonds de pension américains. Et en fait, ces fonds de pension, ils réagissent à tout ça, évidemment, hein, puisqu'ils ne sont pas là pour enfiler des perles.
Ils vont naturellement vers le plus rentable.
Exactement. Donc, l'an dernier, ce sont 6 000 milliards de dollars qui ont été investis dans les énergies renouvelables au lieu d'être alloués aux énergies fossiles. Donc il y a un transfert de fonds vers les énergies propres. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a des raffineries qui étaient en cours de construction, en fait, qui ne seront jamais terminé, donc jamais utilisé.
Ouais, c'est significatif. Voilà.
Puisque tous ces fonds de pension, là, forcément, ils misent sur plutôt l'avènement des énergies renouvelables plutôt que...
Ouais, on va faire des grands vites, des parcs d'attraction.
Alors évidemment, hein, on parle des fonds de pension, donc c'est pas forcément ce qu'on rêve de mieux pour notre société. Mais c'est un indicateur aussi, c'est une tendance, et je pense que voilà, c'est quand même pas mal que les fonds de pension s'orientent plutôt vers les énergies renouvelables.
Bon, ben moi, vous allez m'excuser, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, mes modes nouvelles sont plutôt axés sur le côté médical, je ne sais pas pourquoi.
Bon. C'est très bien, on ne parle pas souvent de médecine d'ailleurs, moi voilà. Qui suis médecin, je...
Ah, et donc comme on n'y connaît absolument rien, on peut se permettre d'en parler.
Alors si des médecins nous écoutent, surtout qu'ils se bouchent les oreilles.
Alors, je voudrais vous parler de la maladie d'Alzheimer. Malheureusement, c'est une maladie qui touche beaucoup de familles dans le monde entier. Alors, il y a une dame qui s'appelle Audrey Gabel. Alors, je vous donne son patronyme, professeur de neurologie et neurosciences, directrice du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche et du Centre de Compétences Démence Rare et Précoce au CHU de Montpellier. Donc, c'est pas n'importe qui. Cette personne revient des États-Unis, de San Diego plus exactement, parce qu'elle a participé à la mise en place d'un nouveau médicament qui va être distribué, bien sûr, par un laboratoire américain, le laboratoire Biogen et son partenaire japonais Elsai. Donc, c'est quelque chose qui est lancé. Ce médicament s'appelle l'aducanumab. C'est un nom particulier. C'est une molécule qui a, après de nombreuses analyses, de nombreuses recherches, ils se sont aperçus qu'ils ont réussi à, sur un échantillon quand même relativement représentatif de plusieurs milliers de personnes, ils se sont aperçus que ce médicament pouvait faire régresser de 40% l'évolution de la maladie. On peut considérer actuellement que c'est un vrai succès dans le traitement de cette maladie, et au point que les discussions, parce que nous en Europe, pendant que les Américains agissent, nous on en est encore au stade des discussions, et donc les discussions sont en cours auprès de l'agence européenne justement pour pouvoir donner une autorisation d'utilisation de ce médicament, voilà.
Alors, effectivement, c'est une très bonne nouvelle, Roland. Alors, moi, je vais vous faire une petite bonne nouvelle là, un peu plus sociétale. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Il se trouve que, donc, ça se passe en France, hein, 25 travailleurs maliens viennent d'obtenir, donc, cette semaine-là, des dommages et intérêts pour... discrimination raciale et systémique au travail. Donc, c'est devant le Conseil de Prud'homme de Paris.
Au Mali ?
En France, devant en France. Le Conseil D'accord. de Prud'homme de Paris. Donc, D'accord. c'est vraiment, voilà, c'est 25 maliens qui travaillaient donc dans une entreprise du bâtiment. Je pense qu'on peut la citer parce que, voilà, qui s'appelle MT Bat Immeuble. Elle n'existe plus d'ailleurs, elle a été placée en liquidation judiciaire. Donc, voilà, c'est pour dire les gens qui devaient la diriger. Enfin, bref, voilà. Ils ont obtenu quand même chacun 34 000 euros de dommages et intérêts. Et 3 000 euros de salaire de retard. Alors pourquoi donc ces ouvriers, ils étaient déjà employés illégalement, ils étaient sur des chantiers à Paris. Ouais. ils étaient donc soumis en permanence à une discrimination. On les appelait tous Mamadou. Voilà, ils n'avaient pas de prénom, ils s'appelaient tous simple. Mamadou. Mmh. Ils étaient toujours assignés aux tâches les plus pénibles et dans des conditions dangereuses et sans le port des protections réglementaires, comme on dit. Hein. En plus, ils ont eu des accidents, puisque comme ils étaient assignés aux tâches les plus pénibles et tout ça, il y a quand même eu sur les 25 deux accidents graves, dont une chute d'un échafaudage qui n'était pas protégé. Donc ça, c'est forcément... Hein. Et en plus, quand le jour où ce gars est tombé d'échafaudage, l'employeur qui était là a refusé d'appeler les pompiers, parce que forcément c'était un immigré clandestin, hein, alors qu'il était quand même sans connaissance au sol. Voilà, donc c'est eux, ils n'existent plus. Les Maliens ont été indemnisés, bon, même si on ne peut pas forcément tout indemniser par de l'argent. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que maintenant, ce fait-là, il va faire jurisprudence. Hein, et voilà, c'est inscrit dans le droit. Donc, ça va. Les autres procès, des prud'hommes vont pouvoir s'appuyer là-dessus, c'est ça qui est... Donc,
ça
c'est
se plutôt... passe en France, quand
voilà,
même.
Voilà, ça se passe en France, donc quand on parle du travail clandestin dans le bâtiment ailleurs, ben voilà, il faut des fois aussi balayer devant sa porte. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Alors, les matières plastiques, on en parle souvent.
Ah oui.
Il paraît que sur notre planète, il y a quasiment un continent qui s'est formé.
Oui. Ouais.
Alors, il faut savoir qu'en France, on agit. La preuve, c'est que depuis le 1er janvier, à l'Assemblée nationale a été voté un décret qui stipule que les couverts, assiettes, saladiers ou boîtes en plastique jetables désormais ne sont plus autorisés en France dans la restauration, les cantines, la vente à emporter collective et les supermarchés. Voilà, tout ce qui est collectif.
C'est très bien. C'est vraiment
donc,
très bien.
Si vous allez dans un restaurant rapide et que vous voulez boire votre coca habituel ou votre soda habituel,
un verre.
Vous n'aurez plus votre paille. Voilà.
Ah, mais par contre, le gobelet, lui...
Le gobelet est en carton.
Ah, le gobelet est en carton,
ouais,
effectivement.
Ouais.
Okay.
Non,
oui.
Il y a... Justement, je parle
pas d'une... Pas de couvercle en plastique.
Je parle d'une société qui a déjà pris des devants. Alors, maintenant, il faut se dire, quand est-ce qu'on va plus avoir de matière plastique dans les travées des supermarchés? C'est-à-dire, quand est-ce que le particulier, lui... n'aura plus
accès
les moyens
ses...
de... Voilà. Oui. Alors ça, évidemment, on est dans le domaine des lobbyistes qui s'arc-boutent sur donc. Alors, il y a quand même un moratoire qui a été voté, et donc, il est fixé en 2040. Donc, on peut espérer qu'en 2040, on devrait, en principe, ne plus avoir de plastique dans les travées des supermarchés.
Mais ça va se faire avant, parce que forcément, la pression populaire va faire changer ça. 2040, c'est trop loin.
Surtout que la pression populaire a l'air très, très efficace ces temps-ci.
Oui. Est-ce que vous connaissez Camille Allu?
Camille Allu.
Christophe, Roland,
pas
ça vous dit rien.
Ah non.
Mais voilà. Alors, en fait, elle est observatrice des droits de l'homme à Montpellier. Et il lui est arrivé une petite histoire. Donc ça, c'est Alain qui voulait aussi qu'on parle de Camille Allu, là. Hein. Donc voilà, je me fais sa voix. Alors, d'abord, Camille Allu, sa particularité, c'est qu'elle s'est fait traiter de connasse par le chef de la BAC de Montpellier.
Ah d'accord.
Bon, ça fait sourire. Les CRS aussi lui ont dit « on sait où tu habites ». Tout ça, pourquoi? Parce que tout simplement, en tant qu'observatrice des droits de l'homme de Montpellier, elle filmait les manifs, etc.
C'est des gilets jaunes en particulier.
Oui, voilà, des gilets jaunes.
Ah ouais.
Et donc, elle a été accusée, forcément, mis en examen et tout ça. Et les juges de Montpellier, donc, n'ont retenu aucune charge contre elle. Toutes les charges contre elle donc, ont été abandonnées. Hein. Son délit, comme je vous dis, c'était d'avoir filmé, juste d'avoir filmé. Hein, voilà. Et pour une fois, c'est bien. Quoi, la justice a rendu un verdict juste. Voilà. Et Camille, bravo. Et c'est vrai qu'elle a 26 ans, elle est très très engagée, très courageuse. Donc, il faut continuer.
Et Camille n'est pas une connasse. Il faut que ça se sache.
Exactement.
Bien, alors moi, je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais quand j'assiste, je regarde pas souvent le football, mais quand j'assiste à une interview d'un joueur à la fin d'un match, j'ai toujours de la peine à suivre ou à comprendre. Je dois pas avoir suffisamment de neurones pour comprendre ce que disent les joueurs. Et puis maintenant, j'ai peut-être...
On a une explication alors ?
Oui, on a peut-être une explication.
Alors, l'explication... Je pense qu'on va se faire... Barthas va se faire... Tu auras des petites remarques au téléphone, Roland, mais bon,
mais
on
non,
verra bien.
Le
on
foot,
assume, on
le
assume.
Le foot, c'est génial, et puis bon, voilà, c'est une taquinerie alors que personne ne se vexe.
Donc,
en tout cas, la Fédération écossaise de football a pris une décision. Une décision basée sur des études médicales. Ils se sont aperçus que le cerveau... lorsque un jeune joueur de football faisait des têtes, risquait d'avoir des séquelles quasiment irréversibles. Donc, ils ont décrété que les jeunes footballeurs dans les écoles de foot écossaises, jusqu'à 11 ans, n'avaient pas le droit d'effectuer des têtes et donc se contentaient de travailler avec leurs pieds.
D'accord.
Alors, cette décision, elle est basée sur une étude très sérieuse, puisqu'elle a été, il y a un peu plus de 7000 joueurs qui ont été analysés.
Oui, analysés.
au total un panel de 23 000 personnes en comparaison avec des personnes qui pratiquent pas le football, et il en ressort que chez les footballeurs, il y a 3,5 fois plus de risques de décéder des suites d'une maladie neurodégénérative. Donc c'est pas rien quand même. Et là, on est sérieux.
On taquine plus. C'est vraiment sérieux. Oui, tout à
et
fait.
5 fois plus de risques de développer la maladie d'Alzheimer. On en parlait tout à l'heure. Même s'il y a un médicament.
C'est mieux d'éviter de l'avoir quand même.
Donc voilà. Le lien, la tête était le spécialiste expliquait que la tête, le cerveau est une masse gélatineuse, elle baigne dans un liquide finalement, et c'est vrai que les chocs de la tête répétés, d'ailleurs on le voit bien avec les boxeurs, beaucoup de boxeurs qui ont de séquelles comme ça. Donc messieurs le footballeur, faites attention.
Oui, et c'est une bonne nouvelle de savoir ça en fait.
Voilà. Ouais. Voilà, évitez les têtes. Même contre les Italiens, c'est pas à faire. Quoi.
Ouais, ils sont en train d'inverser le dicton qu'on a en France d'être bête comme ses pieds. Finalement, vaut mieux utiliser ses pieds que sa tête.
C'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça, mais. Non. Est-ce que vous connaissez, chers amis dans le studio, le prix Pinocchio ?
Non.
Non.
Ça doit être.
Je sais pas, peut-être que certains auditeurs connaissent, j'imagine que oui.
Un bout de bois qui s'avance, qui s'annonce. Voilà.
T'as pas donné, Roland.
J'ai pas donné au prix Pinocchio.
Donc, en fait, c'est un prix qui existe depuis 2008. Hein. Donc voilà. Il y a une association de protection de l'environnement qui s'appelle les Amis de la Terre, ce qui est relativement connu, et la Confédération Paysanne qui organise ce prix. Et ce prix, en fait, tout simplement. Il récompense la multinationale la plus habile en matière de greenwashing. Voilà, parce que vous savez bien que certaines grosses entreprises cèdent à la tentation de se faire passer pour des entreprises très vertueuses au niveau de l'écologie, en phase avec le développement durable et tout. Et en fait, assez souvent, c'est un peu du pipeau.
Voilà,
c'est ça. Ouais. Alors heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui surveillent tout ça, et le prix Pinocchio, c'est une façon humoristique de décerner des prix. Alors cette année, je vais vous donner le classement parce qu'il y a plusieurs catégories. Alors cette année, alors en plus ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un truc participatif, donc on peut aller sur le site jusqu'au 19 février, donc sur le site prix-pinocchio.org, et on peut voter. Donc voilà, ça c'est bien. Alors, première catégorie, se faire du blé avec les produits laitiers. Alors, qui est nommé à cette... c'est cette grande multinationale qui s'appelle Lactalis, qu'on ne connaît pas forcément parce que ses produits portent un autre nom, mais on la connaît quand même un peu, un fromage, etc. Voilà.
C'est assez énorme, ouais.
Voilà, et donc, tout simplement, ils ont un discours très vertueux, comme on disait tout à l'heure, mais en fait, ils ne soutiennent absolument pas les éleveurs, ils les pressent en permanence sur le prix du lait, etc. Enfin, tout ce que vous connaissez. Et parce qu'ils les poussent souvent à travailler à perte, et voilà. Donc, Lactalis, donc pour la catégorie se faire du blé avec les produits laitiers. La deuxième catégorie, la face cachée de ton steak. Alors là, c'est une multinationale que je ne connaissais pas, qui s'appelle Bigard. Et au début, je me suis dit, tiens, c'est le fameux gars qui était venu à Florac, mais qui s'était trouvé mal. Et non, c'est pas lui. En fait, c'est une multinationale qui vend de la viande. Donc, qui fournit les collectivités, les industriels de l'agroalimentaire. Alors, je cite les organisateurs. Hein, Bigard, pour les éleveurs de bovins, est plutôt synonyme de course au prix bas, de déterritorialisation de l'agriculture, évidemment, et d'incitation à changer de système vers des élevages de plus en plus gros et de plus en plus hors sol et de plus en plus polluants. Donc, bravo aux organisateurs d'avoir épinglé cette société.
Ouais. Nous, à Florac, on n'a pas besoin de Bigard, on a des bons bouchers.
On
a deux bons bouchers.
Alors, la troisième catégorie, alors là, c'est une entreprise non nationale, c'est une entreprise norvégienne qui est épinglée, qui essaye de nous faire passer les engrais chimiques comme un truc magique, et ils ont même réussi à mettre au point un concept d'agriculture intelligente face au climat, à base de produits chimiques essentiellement. Voilà, l'entreprise, elle s'appelle Yara. Donc voilà, ils se sont épinglés aussi pour le prix Pinocchio. J'espère qu'ils l'auront. Bon, voilà, maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller voter.
si je peux me permettre d'ajouter mon petit grain de sel, tout à l'heure tu parlais de produits laitiers.
Oui.
Y a une bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a une entreprise qui s'appelle C'est qui le patron ?
Oui.
Qui vend du lait en grande surface. Il y a un vote des consommateurs pour fixer le prix de la brique de lait pour une juste rémunération des agriculteurs. Et ça, on peut même en demander à Florac. Il suffit qu'on soit un collectif de consommateurs qui disent, ben voilà, nous on aimerait bien avoir cette marque, C'est qui le patron, qui est en train d'exploser un petit peu en France.
Ah, oui, effectivement, il y a très longtemps, au début de, de cette organisation-là, de cette marque, on avait fait une petite bonne nouvelle, mais ça remonte bien à un an et demi. Et il y a plein d'initiatives comme ça qui fleurissent, et effectivement, il faut encourager évidemment hein, pour lutter. Ben, on espère pas avoir le prix, le prix Pinocchio.
Bien, eh ben moi je vais vous donner ma dernière bonne nouvelle, et c'est une super bonne nouvelle en
tant
fait.
Mieux.
Mais vraiment une super tant bonne mieux, nouvelle, parce que là on parle d'une maladie Ebola qu'on a entendu parler dans les années 2014. 11 000 victimes en Afrique de l'Ouest, enfin c'est quelque chose de terrible. Eh ben il y a un vaccin, ça y est. Bon. On a trouvé un vaccin, il s'appelle Ervebo. Il est distribué à un prix en plus qui va permettre aux populations locales pauvres de pouvoir y accéder. Donc ça a l'air d'être quelque chose de bien fait. Donc bientôt on va plus vraiment entendre parler d'Ebola. Voilà. C'est le laboratoire Merck qui va développer ce vaccin. Ça va être distribué en Guinée, etc. Et voilà, ça c'est l'Organisation mondiale de la santé se tape sur le ventre de satisfaction.
Bon, on se fait une petite pause musicale alors avant la prochaine rubrique. Donc I Need You du groupe America. We used to laugh, we used to cry, we used to bow our heads then. Wonder why? Now you're gone. I guess I'll carry on. Make the best of what you've left to me. Left to me. Left to me. I need you. I'll start it all again, you know I need you. Like the winter needs the spring, you know I need you.
Start it all again, you know I need you.
Eh bien alors, Roland, peut-être un petit conseil de lecture pour ce,
oui,
pour ce mois-ci ?
Alors, je suis tombé sur un vieux bouquin que j'avais lu il y a un petit... Parce qu'après tout, on n'est pas là pour parler que des livres qui sortent.
Tout à fait, on peut parler de vieux bouquins.
Ouais, c'est un bouquin qui m'avait vraiment assez bouleversé à l'époque quand je l'avais lu. J'étais jeune, je l'ai relu là. C'est un bouquin qui s'appelle « Tête de Turc ». Il a été écrit par un journaliste allemand qui s'appelle Günther Wallraff. Alors j'appelle W-A-2-L-R-A-2-F, d'accord ? Tête de Turc. C'est, vous le trouvez en livre de poche hein, maintenant, donc c'est très économique. Alors Günther Wallraff, c'est un journaliste qui est né en 1942 à Cologne, un Allemand. Et c'était un journaliste d'investigation. Je ne sais pas s'il est encore de ce monde, je l'espère. Et en 85... pour appréhender et dénoncer la manière dont la population immigrée turque était traitée dans son pays, et ben il a décidé de se faire passer pour un travailleur turc. Mais il a vraiment poussé l'expérience très très loin, puisque il s'est fait pigmenter la peau, il a porté des lentilles, enfin bref, il a au niveau apparence, il avait vraiment l'aspect d'un travailleur turc. Alors il a eu pendant 2 ans.
Oui, ça a dû durer un moment.
Ça a été terrible. Il a vécu des expériences, enfin les expériences que vivaient à l'époque les travailleurs immigrés en Allemagne. Et à cette époque-là, les conditions de travail de ces immigrés étaient pas facile du tout. Donc ça, c'est vraiment un témoignage. Ça, c'est un bouquin qui avait vraiment défrayé la chronique à l'époque. Et là, eh ben, ouais, il faut se replonger là-dedans pour voir un petit peu comment ça se passe, comment peut se passer la vie d'un immigré qui débarque dans un pays inconnu. Voilà.
Si je peux rajouter encore mon
grain
de sel.
Mais vas-y, Christophe.
Mais on adore tes grains de sel, Christophe.
Oh, ça me fait penser à une journaliste d'investigation française qui a mené une enquête pendant quelques mois qui s'appelle Florence Aubenas. On s'en souvient, elle avait été otage. Et donc, elle s'est mise dans la peau d'une femme de ménage. Voilà, donc elle a côtoyé un petit peu et elle en fait une enquête.
En France, donc femme de ménage à Paris, j'imagine,
dans les grands hôtels. Et elle relate dans son bouquin tout ce que traversent les femmes de ménage
qui sont aussi
issues de l'immigration.
Mais Günther, là, son nom d'emprunt s'appelait Ali Sinir Otoglu. Il a failli laisser la peau parce que il a été cobaye pour un laboratoire pharmaceutique. Il a été ouvrier dans la sidérurgie, il a été exploité par des patrons. Enfin, il est sorti de cette expérience. Il a fait une séance à l'hôpital, quoi. Ça a été jusque là, quoi. C'était terrible.
Gros investissement de sa part, ouais, effectivement.
Ouais.
Ok, bah allez, on s'écoute un petit peu de Neil Young alors.
Ah,
Old Man.
Neil Young.
Thank you. doesn't mean that much to me, to mean that much to you. I've been first and last, look at how the time goes past, but I'm all alone.
Et voici pour finir notre émission un petit texte donc de Raymond Devos qui va nous être lu par Roland.
Oui, alors je vous le dis tout de suite, je vais vous le lire avec bien moins de talent que l'avait notre cher Raymond Devos.
Mais bon, prends confiance en toi maintenant. Allez, à l'âge que tu as.
Allez, on y croit. T'es
confiance en toi. Allez, on y croit.
Donc ce texte s'appelle Matière à rire. Vous savez que j'ai un esprit scientifique. Or récemment, j'ai fait une découverte bouleversante. En observant la matière de plus près, j'ai vu des atomes qui jouaient entre eux et qui se tordaient de rire. Ils s'esclaffaient, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte des conséquences incalculables que cela peut avoir? Je n'ose pas trop en parler parce que j'entends d'ici les savants. Monsieur, le rire est le propre de l'homme. Eh oui, et pourtant, moi j'ai vu de mes yeux vu des atomes qui... maintenant, de quoi riait-il? Peut-être de moi, mais je n'en suis pas sûr. Il serait intéressant de le savoir. Parce que si on savait ce qui amuse les atomes, on leur fournirait matière à rire. Si bien qu'on ne les ferait plus éclater de rire, et que deviendrait alors la fission nucléaire? Une explosion de joie.
Oui, j'en restais tout pantois, comme on dit, voilà. Ouais. Et ben, on arrive au terme de notre émission, hein. Donc, et ben voilà, chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver donc sur Radio Bartas sur le 107, mardi 11 à 8h. Et au revoir à tous, bon mois, comme on dit, au revoir Christophe, au revoir Roland, et puis voilà.
Salut Philippe, salut
au
Christophe.
Au mois prochain, donc, pour une nouvelle émission.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia. Dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place. Take me home.
country roads, take me home to the place.
CBN on Radio Voters. Thanks for listening.